Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast où seul le temps nous limite. Le but de ce podcast est de vous donner un éclairage sur une problématique ou un événement qui marque l'actualité de la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler du Club 27001 et pour discuter de ce sujet, nous recevons Éric Doyen.
Bonjour.
Est-ce que tu peux te présenter, Éric ?
Je suis donc responsable de la sécurité de l'information dans un groupement de protection sociale et je suis également vice-président du Club 27001.
Nous recevons également Karl Roller.
Bonjour, je suis expert sécurité chez un CDN.
Et nous recevons Emmanuel Garnier. Bonjour
oui.
Emmanuel.
Bonjour, donc je suis Emmanuel Garnier, je suis responsable sécurité des systèmes d'information dans un grand groupe de protection sociale également, et je suis président du Club 27001.
Et pour discuter de ce sujet, les contributeurs Nos Limites Sécu sont Hervé Schauer, qui d'ailleurs est secrétaire du Club 27001.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Hulloa. Alors, Éric, le Club 27001, qu'est-ce qui caractérise cette association ?
En fait, en quelques mots, et Emmanuel complétera, en fait, c'est une belle aventure qui maintenant est née il y a pratiquement 10 ans, qui se caractérisait en fait par rapport à d'autres clubs de vouloir porter en fait un message normatif, celui de la norme 27001, auprès de la communauté, alors de la communauté bien sûr de la sécurité, des RSSI, des responsables et intervenants autour de la sécurité, pour promouvoir en fait une norme qui était la 27001 et ses dérivés, qui nous semblait avoir une importance et surtout un tout petit peu mal aimé par rapport à notre propre communauté. Voilà, donc l'idée était de faire autour d'une démarche classique associative, donc en montant des groupes à la fois et des réunions mensuelles ou bimensuelles, faire intervenir sous forme de retour d'expérience en fait différents intervenants autour de la norme, tout en privilégiant bien sûr des REX plutôt utilisateurs que des REX fournisseurs ou intégrateurs.
C'est vrai que c'est une aventure qui a démarré, je crois que c'est en 2007, un peu avant 2007 d'ailleurs, avant qu'on soit un club, une association en tant que telle. Hein, il y avait déjà des réunions du club où moi j'étais pas forcément présent d'ailleurs au début. Et on est passé en association en 2008. J'ai un peu retrouvé, j'ai fait un peu d'histoire avant de venir au podcast là. Donc on a fait, je me rappelle, une première assemblée constitutive, c'était en septembre 2008, où on était en train de débattre de nos futurs statuts avec les grandes idées du club, dans cet esprit de fédérer, de rassembler nos différents praticiens dans la série des normes. Donc 2008, c'était la norme étant sortie en 2005, c'était peu de temps après, on peut dire, 3 ans après.
En fait, moi je connais l'historique. À l'époque, ce qui s'était passé, c'est que lorsqu'il y a eu les normes BS7799, elles étaient quand même difficiles à accepter par pas mal d'associations existantes de l'époque. Et donc, il y avait eu une première association dans laquelle était née une conférence autour des normes. Donc la première fois, c'était sur les normes BS7799, puis après 2005, ça a été sur les normes 27001. Et puis finalement, même dans cette association-là, il y a eu des problèmes. Alors c'est difficile de se remettre dans le contexte, c'était il y a un peu plus de 10 ans, mais finalement, en 2005, eh bien, si on prend des grandes associations comme le CLUSIF, et au CLUSIF, c'était la grande époque de Méhari, les gens voyaient pas d'un bon œil les normes, et créer un groupe sur les normes, c'était pas si évident. C'était aussi des associations qui avaient des cotisations assez élevées. Or, beaucoup de ceux qui s'intéressaient aux normes, c'était des consultants en sécurité qui étaient en société de service, qui n'avaient pas forcément les moyens de payer des grosses cotisations. En fait, c'est tout ça qui a fait que finalement, on s'est dit, mais la norme, c'est quand même l'avenir, ça va être utilisé partout dans le monde. Il faut qu'en France, les gens connaissent et s'y intéressent. Eh ben, finalement, la solution, c'est de faire une association française. Alors, ça existe dans beaucoup de pays. Hein. Il y a des ISMS Users Club, hein, c'est la version anglaise du SMSI, Système de Management de la Sécurité de l'Information. Mais nous, on a décidé que Club 27001, c'était plus joli comme nom. Alors, en fait, au début, on s'était appelé Club ISO 27001. Ouais. Mais on a eu quelques problèmes, puisque on a appris à nos dépens que la marque... la marque ISO 27001, ça appartenait à l'ISO. Donc finalement, on a dû changer et on s'est appelé Club 27001. Je me souviens, c'était assez folklorique quand on a reçu la réquisition là. Mais c'est de là d'où vient l'association. À la même époque, il y a eu aussi la création du Club Ebios, et c'était un peu comme ça, chacune des communautés qui faisait son club pour parler de ce qu'elle pensait comme étant l'avenir en sécurité.
Et je pense que ce qu'on peut rajouter à propos du club, même si le nom c'est Club 27001, on s'intéresse à toute la famille des normes 27001.
Oui, Karl, qui est notre trésorier, au rôle ô combien important dans une association, hein, il n'a pas osé le dire en introduction, Karl a raison. C'est-à-dire qu'au-delà de la 27001, il y a beaucoup d'autres normes qui sont importantes ou très connues et très populaires, comme la 27002 sur les mesures de sécurité, et nous, on s'intéresse à toute la série. Non, mais la 27005 sur la gestion de risque, la 27035 sur la gestion des incidents de sécurité. Bientôt, on va avoir des certifications 27001 étendues, hein, avec 27018, etc. Donc, c'est vraiment une série qui bouge, se complète et qui permet d'aider les gens à gérer la sécurité d'une manière homogène au niveau international par quelque chose de consensuel qui regroupe les bonnes pratiques.
Oui, est-ce que juste avant,
par une anecdote pour juste compléter la partie de l'historique un peu d'Hervé, je pense qu'il y a aussi eu un autre levier puisqu'on sortait à peu près dans le même quorum en fait de la constitution en fait d'une association sur la partie plutôt française en fait qui était une extension de l'I2SA. Qui avait pour X raisons qui est toujours compliqué en France de monter un club, donc on avait reporté en fait cette structuration-là, on l'avait cessé, on l'avait arrêté en tout cas, et puis on s'était dit vis-à-vis justement de tout ce qu'évoquait Hervé, avec la 17799, avec toutes ces formes qui étaient plutôt anglo-saxonnes, l'AFNOR s'était structuré, et en fait on avait très peu de représentants, puisque Hervé en faisait partie, mais ça représentait très peu de personnes qui étaient représentants et porteurs en fait de quelque part de notre expertise auprès de l'AFNOR, donc qui représentait en fait les réunions pour l'ensemble des quorums constituant la norme. Et aussi un autre vecteur de se structurer en club, bah, c'était de mobiliser quelque part un peu les troupes pour aller défendre aussi nos idées. Et ça, bien sûr, ça valait sur dans tout ce qui était mécanisme de révision, de relecture, etc. sur la norme. Donc tout ce qui était ces nouvelles versions 27000 quelque chose, X, et également de valider aussi son portage, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en français.
Bah, on peut dire sa traduction en français.
Mmh. Oui.
Et dans la fin des séries d'anecdotes, on a aussi, puisqu'on parlait un peu de coûts quand même, hein, parce que on a un trésorier, c'est une association qui permet à tout le monde de participer gratuitement à l'association. Ça, c'est quand même le mode de fond où on peut venir librement, c'est gratuit, profiter. Par contre, quand on a fait nos statuts, qu'on a voté le coût de l'adhésion, on a fait un clin d'œil à cette série de normes 27000, puisqu'on a dit la cotisation d'une personne seule ou d'un consultant, c'est 27€, donc c'est largement à la portée à titre personnel. Et pour une entreprise, on l'a mis à 270€, puisqu'on s'est dit 2007, ça fait un peu beaucoup. Dans les années 2000-2008, on n'a pas osé. Et ça n'a jamais bougé depuis les années. Donc on attend de passer à une autre série de normes, peut-être un jour, pour pouvoir augmenter nos cotisations. Mais on n'a pas bougé de tarif depuis 2008.
Donc alors, quand vous dites que vous vous intéressez aux normes, en fait, est-ce qu'il y a des groupes de travail? Qu'est-ce que vous faites exactement?
Le Club 27001 a des groupes, principalement dans les grandes villes. Donc en fait, à Paris, on se réunit à peu près tous les 2-3 mois. Donc ça doit faire 4-5 réunions par an. Puis il y a à peu près, hein, comme il y a souvent une réunion annulée, bon, ça fait à peu près ça dans l'année. Et puis il y a aussi un groupe qui se réunit très régulièrement à Toulouse. Il y a eu des réunions aussi à Marseille, à Lyon, à Rennes, mais là c'est un peu plus épisodique, puisque les gens qui utilisent les normes sont quand même moins nombreux dans ces agglomérations là. Et puis de temps en temps, il y a d'autres groupes, des groupes, je dirais, ad hoc par rapport à des sujets. Bon, moi j'y ai pas participé, mais Emmanuel et d'autres pourront en parler.
Je pense qu'il faut parler bien sûr aussi d'une belle initiative aussi, alors portée par une partie des membres du club, mais à mon sens qui a fait aussi et recréé, enfin qui a fait et donné aussi une vraie dynamique, qui est le benchmark en fait des outils de système de management de sécurité de l'information, partant du fait que ça n'existait pas. Donc déjà, c'est vrai que c'est une pure création du club, qui a été portée pendant maintenant, on en est, je pense à la troisième année, donc qui avait l'ambition en fait de diffuser auprès de la communauté ce benchmark, donc justement en qualifiant chacun des outils, du coup de manière objective, puisque on pouvait le porter au niveau du club 27001. Et faisait lui-même intervenir à la fois bien sûr des consultants, des experts, mais également bien sûr des utilisateurs que nous sommes. Voilà, sur ce benchmark, donc a délivré quelque chose, en tout cas a publié ce qu'on appelle communément un livre blanc, mais qui est plutôt justement un recueil avec un ensemble de fiches. Qui décrivent, avec un certain nombre de critères qui ont été sélectionnés, la valeur, en tout cas la vision sur ces critères de ces différents outils. Donc je pense que ça, c'est un vrai outil qui n'avait, sauf erreur de ma part, encore à jour, pas de point de comparaison avec que ce soit différentes études, Forrester, Gartner, etc.
Ah oui, même en anglais, moi j'ai jamais vu quelque chose de comparable.
Et sur le benchmark, du coup, je sais pas si tu l'as dit, Eric, mais le premier groupe de travail, ouais, le livre blanc est sorti en novembre 2013, ça a duré quand même 18 mois, l'aventure. Parce que je pense que même au début, quand l'aventure a été lancée, on pensait pas que ça durerait 18 mois, enfin, que ça tiendrait en haleine 18 mois et qu'on aboutirait comme un résultat, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail, en fait, entre préparer qu'est-ce qu'on va y faire, faire des questionnaires, demander à des éditeurs, dépouiller ce qu'ils nous renvoient, faire appel à des gens qui, bénévolement, ont bien voulu tester des outils, faire des fiches technique, compulser tout ça, rédiger un document, même si, je sais plus, doit faire une trentaine de pages ou une quarantaine avec toutes ces fiches-là. Mais voilà, c'est quand même un beau document qui avait été présenté lors d'une de nos conférences annuelles et remis, il me semble, en 2000... Il est sorti en novembre 2013, on a dû le présenter en début 2014.
Emmanuel, est-ce que ce travail, justement, est disponible sur le site web ou ce travail est réservé aux membres du club?
Alors, pendant un certain temps, en tout cas, les premiers mois, voire la première année, on le réservait, le travail, le livre blanc en tant que tel était réservé aux membres adhérents quand même, parce que pour les gens qui payent, il faut bien qu'ils aient le droit des choses. Néanmoins, il y a pas mal de documents qui sont disponibles sur le site du club, hein, comme le référentiel des outils qu'on a testés, les questionnaires de fiches techniques. Et depuis qu'on travaille sur la version 2, en fait, la version 1 est remise sur demande. Je sais pas si on l'a mis sur le site.
Elle est sur le site, elle est sur le site.
D'accord, elle est même
donc
sur le
site. Maintenant... Oui, maintenant le livre blanc de benchmark des outils, il est disponible sur le site web. On a aussi attendu pour le rendre disponible d'avoir épuisé les versions papier. Parce qu'en fait, on distribuait aussi des versions papier imprimées super classe du livre blanc.
Alors, en dehors de ce travail, est-ce que vous organisez des événements publics ou non?
Alors le club organise une énorme conférence annuelle, donc c'est le grand événement du club. Et cette conférence est très bientôt puisque elle va se dérouler à Paris le 7 avril. Voilà, c'est ça, le 7 avril. Ouais. Le trésorier lui est toujours au courant. Donc le 7 avril dans le cadre des GS Days avec un super programme. Donc on invite tout le monde à s'inscrire sur le site du club. club-27001.fr et à venir à cette conférence. Alors en fait, on aura une séance commune avec les GSDs pour avoir Guillaume Poupard, Jean-Paul Mazoyer qui est le DSI du Crédit Agricole et administrateur du CIGREF et Jean-Luc Molinaire qui est le directeur général de la sécurité du groupe Orange au niveau mondial. Et après, on passe à la 27001 avec des présentations sur... est-ce que l'ISO 27001 est soluble dans l'agilité, avec un retour d'expérience utilisateur? En quoi l'ISO 27001 sert à maintenir la sécurité opérationnelle? Donc, des choses traitées concrètes de retour d'expérience dans l'utilisation des normes.
Et puis je compléterai juste avec une intervention d'un des fondateurs, et j'ai qu'Hervé aime pas trop parler d'Alexandre. En fait, on a la chance d'avoir quelqu'un qui porte en tout cas la norme presque à bout de bras depuis son origine, des premières formations, qui est Alexandre Fernandez Toro. Donc on est maintenant à sa deuxième, troisième édition, je sais plus, Hervé,
Il en est à la
corrige-moi,
troisième, mais là il prépare
troisième.
la quatrième édition de son livre qui sera celle qui intégrera toutes les nouvelles normes, les versions 2013 et plus récentes des normes, etc. Là il prépare, oui, une nouvelle, c'est la quatrième qu'il prépare là. Quatrième édition.
J'avais un
Quatrième
doute sur
édition.
la troisième ou quatrième. Donc, il interviendra aussi et nous fera l'honneur à nouveau dans cette belle édition-là d'intervenir sur le thème qui est en quoi l'ISO 27001 aide à maintenir dans la durée la sécurité opérationnelle. Donc, deux liens avec la sécurité opérationnelle en tant que telle et bien sûr notre thème qui est l'ISO 27001.
Alors, au cours de cet épisode, nous n'évoquons pas la norme 27001. Toutefois, ce sujet a été évoqué par nos collègues du comptoir Sécu, avec d'ailleurs Alexandre, qui était leur invité. Donc, chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus sur cette norme, eh bien, je vous invite à écouter l'épisode du comptoir Sécu sur la norme 27001. Qu'est-ce qu'on peut ajouter? Quels sont vos projets? Est-ce que vous avez des choses dans les bacs?
Alors, dans les bacs, moi, je donnais juste la parole. Donc, un nouveau benchmark, ça, Emmanuel en a parlé. Donc, une nouvelle version 2000, donc 2015-2016 du benchmark qui devrait sortir. Alors, on essaye toujours de se fixer un peu la conférence comme un jalon, mais sous la forme, bien sûr, de bénévolat, c'est toujours un peu difficile de tout boucler. Donc, je pense ça sera probablement courant de l'été, rentrée. En tout cas, on essaye de le sortir. Donc, cette version révisée dans l'année. Les régions, Hervé en a parlé, avec toujours une petite difficulté pour trouver le bon niveau d'animateur, qui est toujours un problème. On l'a même déjà sur l'Île-de-France. Trouver des lieux. Également d'ailleurs, et puis bah, toujours les difficultés sur cette forme de bénévolat qui est la disponibilité à la fois de l'animateur, du co-animateur, et puis bien sûr de ne pas avoir trop de défauts sur les gens qui s'engagent à restituer lors de ces groupes de travail.
Oui, sachant qu'à chaque réunion, il y a des présentations. On se fait des présentations entre nous pour échanger nos pratiques, notre savoir-faire, nos retours d'expérience. Mais en région, là où ça marche très bien, c'est à Toulouse. Parce qu'à Toulouse, ils ont même eu un groupe de travail autour de la mutualisation entre ITIL, ISO 20000 et ISO 27001. Donc, il y a une grosse dynamique. Et s'il y a bien un endroit où les réunions ont lieu très régulièrement, c'est sur Toulouse, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent la 27001 et qui ont des SMSI sur la région Midi-Pyrénées. Là où on a un peu plus de difficultés, c'est sur Marseille-Lyon-Rennes. Donc, s'il y a des volontaires qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à nous contacter, toutes les coordonnées sont sur le site du club.
Alors, cette association s'adresse plus particulièrement au RSSI ou est-ce qu'il y a un autre public qui est concerné?
Moi, je trouve qu'il y a le public des consultants en sécurité, c'est-à-dire qu'il y a aussi pas mal de consultants en sécurité, tous ceux qui finalement travaillent quelque part pour les RSSI, pour la mise en œuvre d'une organisation de la sécurité sous forme de SMSI. Donc, c'est principalement tous
SMSI,
ceux qui...
tu peux.
SMSI, système de management de la sécurité de l'information. Hein, c'est ce que définit l'ISO 27001. C'est aussi les consultants qui vont aider à faire des appréciations des risques, à mettre en œuvre des mesures de sécurité, de sensibilisation, toutes ces choses-là. On va dire que c'est ceux qui s'intéressent aux aspects gouvernance, aux aspects organisationnels de la sécurité des systèmes d'information. En utilisant les normes. Et en utilisant les normes, c'est très très large, puisque les normes de la série 27000, elles couvrent absolument tous les domaines de la sécurité. Par exemple, Sébastien Joria, contributeur habituel qui exceptionnellement n'a pas pu nous rejoindre ce soir, a fait une très bonne présentation sur l'ISO 27034, qui est toute une série de normes qui essayent d'intégrer la sécurité dans le cycle de développement logiciel. Bon, malheureusement, c'est un peu lourd. C'est basé sur le SDLC de Microsoft, mais c'est pour dire que en s'intéressant aux normes, on s'intéresse quand même à tous les domaines, même si on a plus un vernis organisationnel, gouvernance autour de la sécurité.
Ouais, pour compléter ce que dit Hervé, on a les problématiques de continuité d'activité. Donc là, on trouve des profils qui peuvent être légèrement différents. Des profils RSSI, je dirais standard. Et puis on est aussi, on voit bien en proximité aussi des travaux de tournent autour du risk management, donc des profils plutôt typés risque, sans pour ça chevaucher ce qui peut être fait au niveau de l'AMRAE ou autre association. Mais le focus sur la sécurité de l'information est quand même un sujet qu'on retrouve. On en a parlé, hein, que ce soit de l'ISO 20000. Avec toute la partie des problématiques de production, de la continuité d'activité et l'approche bien sûr risque, inhérent au risque portant sur le système d'information. Donc la communauté, elle, pour en tout cas pour nous, elle est vouée aussi à grossir, à grandir, en ouvrant justement à ces différents profils.
Pour donner un exemple, autour de la gestion de risque, on a eu des présentations de gens qui ont utilisé la 27005 dans des contextes complètement différents que la sécurité de l'information et qui ont montré que bah, finalement c'était une méthode où en changeant quelques mots, on pouvait par exemple s'en servir dans les systèmes de management environnementaux pour faire de la sécurité environnementale. Donc on a quand même pas mal de présentations qui sont un peu une ouverture, hein, je dirais, sur tous ces sujets connexes. On a eu aussi pas mal de présentations sur comment construire des systèmes de management intégrés ou avoir un audit interne intégré pour que l'organisation de la sécurité sous forme de SMSI s'apaise absolument pas plus que la sécurité tout court, mais ce soit bien visible dans l'entreprise.
Et en termes de public, on peut dire aussi que les réunions sont ouvertes à tout le monde, même les non-adhérents, ce qui permet éventuellement aux étudiants en sécurité, en tout cas ceux qui se sentent concernés, de venir participer.
Et est-ce que vous souhaiteriez faire un appel à contribution ou est-ce que vous avez besoin d'un coup de main, de salle, de que sais-je ?
Alors oui, le club tourne chez des membres et donc pour les réunions, en tout cas à Paris, effectivement, on est souvent hébergé par des sociétés de services et ça tourne d'une société à une autre. Mais oui, parfois on a quelques difficultés à avoir des salles. Sachant qu'en fonction du sujet, ça peut dépasser les 30 personnes. Et donc, tout de suite, ça devient un peu plus compliqué. Donc, s'il y a des gens qui peuvent proposer des salles tout en souhaitant participer au Club 27001, ils sont les bienvenus.
Voire même des nouveaux sujets, comme avait été lancée l'initiative du benchmark des outils SMSI à l'époque. Hein. C'est toujours l'occasion de partir d'une idée, d'une initiative de quelqu'un, de la capter en vol et puis de la lancer, de la mettre en musique, comme on avait su faire, je pense, dans ce contexte-là. Donc, ça, c'est toujours bon à prendre, quoi.
Donc alors, en ce qui concerne vos adhérents, dans quelle proportion il y a des RSSI et des consultants ?
Alors, en fonction de ce que j'ai pu noter l'année dernière, sur une centaine d'adhérents, il y avait environ plutôt les deux tiers de sociétés de services, mais aussi un bon tiers d'utilisateurs finaux, et donc plutôt de RSSI.
Je pense pour compléter ce que vient de dire Karl, je pense que l'important c'est... On sait bien la problématique des pérennités des clubs, d'autant un peu de niche, en tout cas spécifique, comme est celui du club 27001. Je pense que l'important, c'est de voir que ce club, même si on a pu être inquiet à des moments, je me souviens très bien, au tout début, donc ça devait être autour de 2010, on a commencé à monter justement ces problématiques de conférences. Alors on a essayé de la monter par nous-mêmes et ce qui a vu quand même si ça a été, je pense, un succès, ça a été énormément d'énergie. Alors c'est vrai que ça a soudé aussi fortement, en tout cas je dirais, le conseil d'administration du club, mais l'idée après de s'adosser justement à un événement de plus d'ampleur nous dégageait aussi toute cette partie logistique pour nous concentrer plutôt sur le contenu. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, Hervé l'a repris, on existe dans la forme associative depuis à peu près 8 ans, 10 ans dans une forme complètement ouverte. Je pense que c'est un beau succès, puisque là encore, une fois, j'ai pas les derniers chiffres, mais là, la conférence réunira entre 60, 70, on est même été presque à 80 personnes. Je pense que des associations qui, avec cette vraie dynamique et sur un sujet aussi encore aujourd'hui difficile, en tout cas à faire reconnaître, même si je pense que ça c'est en train de prendre. En tout cas, c'était très novateur il y a 8 ans et le pari était presque osé. Fait qu'aujourd'hui, on voit que les événements, en tout cas, sont plutôt appréciés, plutôt félicités tous les ans. Donc je pense que ça montre aussi l'intérêt et le succès, parce que sinon je pense qu'on aurait terminé en tout cas la vie du club depuis fort longtemps. Voilà, donc venez tous nombreux à la conférence qui sera le 7 avril et qui est notée ou en tout cas inscrite sur le club. La somme est aussi modique que l'adhésion. L'idée, encore une fois, étant de porter uniquement le financement du club et absolument pas d'en faire quelques profits que ce soit.
Très bien. Est-ce que vous voyez des choses à ajouter ?
Non, je pense que c'est une bonne vision complète et j'espère que beaucoup de gens intéressés par la sécurité sous le côté gouvernance viendront nous rejoindre au Club 27 Milan.
On peut peut-être rappeler l'URL de votre site ?
Donc www.club-27001.fr.
Bon, eh bien, merci à vous pour votre participation.
Merci à nos limites sécu pour nous avoir invités.
Merci beaucoup. Ouais.
Merci bien.
Bonne chers journée. Auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous disons à très très bientôt pour un nouveau podcast. Salut.
Au revoir.
Au revoir.